tout de suite le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation publique sur la future réforme des retraites qui vise à instaurer un système par points sur le principe du 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, précision de Rémi Hinck dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb critiqué pour avoir dit que les migrants font du benchmarking en comparant les pays européens. Gabriel Attal, porte-parole de LREM, déclare que s'il y a benchmark, c'est pour les migrants, c'est mourir chez eux ou survivre ailleurs. Commentaire de Mathieu Laurent. Emmanuel Macron fait aujourd'hui la promotion du loto du patrimoine. Le chef de l'État valide en effet l'idée lancée par l'animateur de télévision Stéphane Bern d'organiser une loterie, un jeu de grattage aussi pour financer les travaux sur des monuments que les communes n'ont pas les moyens de sauver. Précision avec Alexandre Locke. Et puis retour à la case départ en Italie, de nouvelles tractations ouvertes entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Pour constituer un gouvernement en mesure de diriger le pays. On en parle avec Mathilde Imbert-Thi. Pendant ce temps, à Madrid, les députés commencent à débattre d'une motion de censure déposée par l'opposition socialiste pour renverser le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy. Correspondance avec Marie-Hélène Ballestero. On attend enfin dans la journée, dans les minutes qui viennent, peut-être même l'annonce de ces sanctions américaines sur l'acier et sur l'aluminium. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle Washington à la sagesse. Nous l'entendrons. L'invité de la séquence interview, Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
C'est une idée qui a germé pendant la campagne présidentielle. Elle a ensuite aussitôt été enterrée avec la défaite de celui qui l'a portée pour ou contre le revenu universel. On va en débattre avec nos invités, un philosophe et un économiste qui seront avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Baptiste Milondo et Guillaume Allègre sont nos invités.
Et avant de développer ces titres, retour sur cette incroyable manipulation dont l'ensemble de la presse a été victime hier et pour laquelle d'ailleurs nous vous présentons nos regrets. Nous avions annoncé dans cette édition effectivement que le journaliste critique du Kremlin, Arkady Batchenko, avait été assassiné à Kiev de 3 balles dans le dos devant chez lui. Et nous avons appris peu après que cet assassinat n'était qu'une mise en scène du pouvoir ukrainien. Batchenko qui est en effet réapparu dans une conférence de presse spectacle après un moment naturellement de soulagement de le savoir vivant. La manipulation des autorités ukrainiennes suscite bien des interrogations et surtout un grand scepticisme. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire d'abord que cette manipulation a été préparée avec soin par un État, donc l'État ukrainien, et qu'elle était quasiment imparable pour nous.
Sans doute, car d'abord, cette information était vraisemblable. Ce journaliste russe menacé s'est exilé en Ukraine, il est critique du Kremlin, et des appels au meurtre ont été lancés sur les réseaux sociaux en Russie. D'autres opposants russes ont d'ailleurs été assassinés en Ukraine. Quand l'information tombe, c'est juste un nom de plus qui s'ajoute à la liste. Et puis il y a la mise en scène redoutable, préparée semble-t-il depuis plusieurs semaines. Le récit fourni, l'épouse de Babchenko aurait entendu des coups de feu dans la cage d'escalier de son immeuble, serait sortie pour trouver son mari sur le palier baignant dans une mare de sang. Celui-ci annonce les autorités est mort dans l'ambulance qu'il conduisait à l'hôpital. Des photos de son corps ensanglanté sont diffusées par les autorités ukrainiennes. Un portrait robot du suspect est même rendu public. Comment douter quand la source de l'information est un État, que l'information est ainsi documentée et circonstanciée?
Et comment l'Ukraine justifie-t-elle cette mise en scène?
Eh bien, les services de sécurité ukrainiens assurent que c'était la seule façon de déjouer un meurtre commandité par la Russie. Kiev dit avoir été informé d'un complot visant à assassiner 30 personnes en Ukraine, dont le journaliste. Un Ukrainien aurait reçu 40 000 dollars pour le meurtre. Il s'agissait donc, explique le procureur général, de faire croire à la mort de Babchenko afin que les auteurs du complot pensent avoir réussi leur coup et que l'on puisse remonter et documenter toute la chaîne, depuis le tueur à gages jusqu'aux organisateurs et aux commanditaires. Alors l'explication est curieuse, hein, par parenthèse, comment un tueur qui n'a pas tué pourrait croire avoir réussi et en informer son commanditaire? Mais les Ukrainiens affirment avoir réussi. Un homme présenté comme l'organisateur recruté par les services de sécurité russes aurait été arrêté. Il serait en détention. Mais les services ukrainiens ne donnent aucun détail sur son identité. Alors, faut-il croire cette nouvelle? C'est bien le problème. Non seulement l'Ukraine a perdu de sa crédibilité, mais en plus, elle renforce celle de Moscou, qui est pourtant passée maître dans la stratégie du mensonge. Et puis, une autre justification, Antoine, avancée hier, interpelle. Le ministère de l'Intérieur ukrainien prend comme exemple rôle un roman. Sherlock Holmes, je cite, a utilisé avec succès la méthode de la mise en scène de sa propre mort pour élucider efficacement des crimes compliqués. Or, que dire qu'un État justifie une manipulation qui porte un tel coup non seulement à sa propre parole, mais aussi à l'information en s'appuyant sur une fiction, c'est comme une mise en abîme vertigineuse.
Voilà, et le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, qui condamne cette simulation navrante, une nouvelle étape, dit-il, dans la guerre de l'information entre Kiev et Moscou. Et on redoute, Marie-Pierre, d'avoir là peut-être un avant-goût du monde prochain où rien ne permettra plus vraiment de distinguer le vrai du faux.
En tout cas, comment rendre compte ce matin de que dire qui ne risque d'être balayé ? Il n'y a pas longtemps, nous dissertions ici sur l'annulation du sommet américano-coréen pour apprendre quelques heures plus tard que la lettre de Donald Trump pouvait être mise à la poubelle. Il avait changé d'avis. La parole du président américain ne pèse donc pas. Sur quoi alors se fonder pour informer quand ce qui semblait certain hier n'apparaît qu'une construction, quand le réel ne peut plus être saisi comme une poignée de sable que l'on a beau serrer mais qui nous échappe inexorablement.
Marie-Pierre Véraud, merci. Et ce journal continue quand même. Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation publique sur la future réforme des retraites qui pourrait être présentée au milieu de l'année 2019. Consultation qui va se dérouler jusqu'au mois d'octobre, parallèlement aux concertations avec les partenaires sociaux qui sont menées donc par le haut-commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye, qui expliquait ce matin dans Le Parisien que le but c'était d'harmoniser les 42 régimes existants et d'instaurer un système par points avec un principe donc simple. 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. C'était le vœu formulé notamment par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Rémi Inck, bonjour.
Bonjour Antoine.
Le principe donc est très simple, mais pas forcément facile à mettre en œuvre.
Oui, c'est un peu une usine à gaz hein, cette plateforme, ce site internet, qui est ouvert jusqu'au 25 octobre. Il y a 11 thèmes différents. Vous pouvez commenter les pistes de travail proposées par le haut commissaire à la réforme des retraites. Voter pour celle-ci avec 3 choix possibles. D'accord, mitigé, pas d'accord. Et puis vous pouvez également proposer vos propres pistes de réflexion avec le même système de vote. Ce midi, la thématique la plus commentée par exemple, quel système de retraite pour tous les actifs ? Recueille 645 contributions, un peu plus de 4000 votes. Des ateliers de discussion seront également organisés de septembre à fin octobre dans 8 villes de France. De Montreuil à Arras, à Strasbourg, en passant par Toulon ou bien Dijon. Et puis enfin, une réunion de travail avec Jean-Paul Delevoye prévue en décembre avec 15 contributeurs. Comment seront-ils choisis pour la qualité de leur contribution, nous explique-t-on ? Pas très précis. Principe simple, donc, mais avec beaucoup d'étapes et beaucoup de données à recueillir.
Alors pourquoi toute cette concertation, finalement, puisque le projet est quand même assez clairement défini ?
Eh bien, clairement pour afficher une volonté de transparence, de dialogue, pour prendre le pouls des Français, pour éviter ou tout faire pour éviter des manifestations, des mouvements de contestation sur cette réforme qui est emblématique dans ce quinquennat. Jean-Paul Delevoye le dit lui-même ce matin, tout l'intérêt est de faire tomber les inquiétudes et d'écouter. Et puis aussi, on peut voir peut-être la patte d'Emmanuel Macron. Les citoyens ne croient plus au discours politique, il faut que les décideurs les associent aux décisions, explique Jean-Paul Delevoye. Sur le site internet, le gouvernement l'assure, là aussi, toutes les contributions seront lues et étudiées. En fin d'année, une synthèse sera présentée aux décideurs politiques, parlementaires, partis politiques. Alors après, savoir si ces avis de citoyens auront un réel impact au final sur la réforme, c'est une autre question.
Rémi Inck, merci beaucoup. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, salue, lui, une vraie volonté de concertation de la part de l'exécutif sur cette réforme des retraites avec une discussion qui paraît, dit-il, sincère et loyale. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, critiqué depuis hier pour avoir dit que les migrants faisait du benchmarking en comparant les pays européens. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le défendait ce matin en estimant qu'il faisait référence seulement aux passeurs et aux filières. Mais Gabriel Attal, par exemple, le porte-parole de LREM, se démarquait des propos de M. Collomb. « Moi, je pense, disait-il, l'invité de France Inter, que s'il y a un benchmark qui est fait aujourd'hui par les migrants, il est assez simple, c'est mourir chez eux ou survivre ailleurs, c'est se faire mettre en esclavage en Libye ou risquer leur vie. » Alors où s'ouvre, où s'est ouvert à Gap un procès à forte tonalité politique. 3 militants suisses et italiens qui sont poursuivis pour avoir aidé des migrants à entrer illégalement en France. Cette polémique illustre bien, Mathieu Laurent, l'enjeu que représente maintenant la perception du phénomène migrant et la manière d'y faire face.
Une perception d'une parole politique colonisée, abîmée par la technocratie européenne, en témoigne le shopping de l'asile de la ministre Nathalie Loiseau. C'était au début du mois de mai. Elle s'était empressée d'ailleurs de regretter cette formulation malheureuse en expliquant que c'est une expression communément utilisée par les spécialistes européens du droit d'asile. Perception d'une parole politique aussi de campagne quand migrants, réfugiés, immigration, terrorisme exclusivement islamiste sont entremêlés à dessein pour clientéliser l'électorat. Benchmarking, disiez-vous. De quel phénomène s'agit-il, Antoine? De migrants? Du migrant économique ou bien de réfugiés qui fuient les guerres, les dictatures et le climat? L'étymologie peut être un recours. Quand s'oppose ceux qui dénoncent un déni d'hospitalité à ceux qui promeuvent un délit de solidarité, le spectacle de la réalité immédiate nous échappe. Des dizaines de milliers de candidats à l'exil meurent en Méditerranée et l'Europe se claque mur. Tout juste s'indigne-t-elle du cliché du petit Eylan kurde gisant sur une plage italienne en septembre 2015. Mais qui s'indigne? Combien de temps? Qui est cet autre qu'il faut à tout prix éloigner de nos termes? À quelle société appartenir quand le monde est sur les routes? Xavier Emmanueli, fondateur de Médecins sans frontières et président du SAMU Social International, propose de caler le curseur de nos réflexions et indignations sur ce qui configure l'altérité. Quelle construction de l'autre? Elle ne peut s'alourdir, cette réflexion, Antoine, d'instrumentalisation politicienne venimeuse, en témoignent ces haines identitaires et autres replis patriotes qui gangrènent l'Europe.
Mathieu Laurent, merci. Emmanuel Macron fait aujourd'hui la promotion du loto du patrimoine, dont les revenus donc doivent aller à la restauration des monuments en péril. Le chef de l'État visitait ce matin le château de Voltaire à Ferney, près de Genève, et puis il va donner une grande réception à l'Élysée tout à l'heure, à la recherche d'économies budgétaires. Donc il a validé, on le sait, cette idée relancée par l'animateur de télévision, Stéphane Bern, d'organiser cette loterie et aussi un jeu de grattage pour financer les travaux sur des monuments que les communes n'ont pas les moyens de sauver. Alexandre Locke.
Il y a un an, Emmanuel Macron traverse la cour du Louvre fièrement après sa victoire à l'élection présidentielle. Depuis, les apparitions dans les grands lieux du patrimoine français se multiplient. Réception de Vladimir Poutine au château de Versailles, dîner à la tour Eiffel avec Donald Trump ou encore récupération du fort de Brégançon pour enjeux personnels et diplomatiques. Alors la mise en place d'un loto du patrimoine constitue une continuité dans la manière dont Emmanuel Macron utilise cette culture française. L'enjeu devient donc double pour lui, qui souhaite démontrer son attachement à la valorisation du patrimoine français à l'international et ainsi asseoir un peu plus sa verticalité du pouvoir par ces grands lieux de la culture française.
Le paradoxe, c'est que cette verticalité donc patrimoniale va être alimentée par l'argent privé.
C'est ce que souligne Jean-Paul Sireco, directeur de l'Observatoire de la culture de la Fondation Jaurès. Pour lui, l'État ne prend pas pleinement ses responsabilités. Il estime que le budget alloué au patrimoine par le ministère de la Culture pourrait être équivalent au bénéfice attendu de ce loto, soit 20 millions d'euros. Il souligne également le montant des tickets vendus, compter 15 euros pour espérer toucher le 1,5 million d'euros et ainsi aider à la restauration du patrimoine contre 2,20 € pour un ticket de loto classique. Autre paradoxe, d'un côté la stature d'Emmanuel Macron dans l'utilisation des grands lieux de la culture française et de l'autre une revalorisation passant par une pratique populaire souvent décriée mais surtout aux frais des citoyens. Pour Laurence Benhamou, auteur d'un rapport sur la valorisation du patrimoine, il s'agit principalement d'une mesure de communication et d'instrumentalisation mais qui s'avère nécessaire. Elle rappelle qu'il ne faut pas oublier le petit patrimoine, l'argent de cette loterie ne bénéficiant pas à l'ensemble des monuments français.
Alexandre Locke, merci. Retour à la case départ en Italie avec ces nouvelles tractations qui se sont ouvertes entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue pour constituer un gouvernement en mesure de diriger le pays en accord avec le président Mattarella. Carlo Cottarelli, donc, était l'économiste chargé dans un premier temps de former un gouvernement d'experts pour gérer les affaires courantes avant de nouvelles élections, eh bien, a gelé la formation de son équipe pour laisser le temps aux discussions. Et hier soir, après une discrète entrevue avec M. Mattarella, le leader des 5 étoiles, Luigi Di Maio, a proposé un compromis. Donc, garder le ministre contesté Paolo Savona dans l'équipe, mais le mettre à un autre poste que celui de l'économie et des finances et nommer à sa place donc une personnalité qui aurait la même envergure. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, il semble que c'est un compromis que pourrait finalement accepter le leader de l'extrême droite, Matteo Salvini.
Oui, la tentation existe pour Matteo Salvini, qui d'ailleurs a annulé tous ses déplacements prévus aujourd'hui, des rencontres électorales en Lombardie, pour revenir à Rome. Les négociations vont porter sur ce nom de Paolo Savona. Est-ce que Matteo Salvini acceptera de le sacrifier? Lui qui jusqu'ici s'est montré inflexible sur le portefeuille de l'économie. Dimanche dernier, le secrétaire de la Ligue a défié le chef de l'État, Sergio Mattarella, et le gouvernement populiste n'était pas né. Qu'est-ce qui a changé depuis dimanche en Italie? D'abord, la mini-panique autour du pays sur les marchés financiers. La nomination de Carlo Cottarelli pour former un gouvernement technique n'a pas rassuré les investisseurs. Ensuite, l'opinion publique italienne. Ce gouvernement jouit d'un consensus très faible. Sur le plan politique, enfin, ce gouvernement technique ne résout pas à moyen terme l'incertitude, car s'il se met en place, il faudra retourner aux urnes et sans changement de la loi électorale. Quand bien même la Ligue gagnerait quelques points, elle ne pourrait pas gouverner seule. Il faudrait repartir dans des négociations. À ce stade de la crise, 89e jour de crise, le monde de l'entreprise commence à donner son avis. Ces entrepreneurs du nord de l'Italie qui constituent l'électorat de la droite et la locomotive de l'économie italienne. Ainsi, un grand patron intervient ce matin dans la Stampa. Le président de l'entreprise Lotto, qui est une entreprise d'articles de sport prospère, il supplie cet entrepreneur, les dirigeants politiques, de se mettre d'accord sur un gouvernement, de clore les querelles et de se mettre enfin au travail.
Merci beaucoup Mathilde Imberti, vous étiez donc en direct de Rome. Voilà, on essaie de joindre aussi l'Espagne où pendant ce temps les députés commencent à débattre d'une motion de censure déposée par l'opposition socialiste pour tenter de renverser le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy. Apparemment la liaison est difficile à établir. On va tout de suite intervenir avec notre invité aujourd'hui qui est un économiste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc, vous êtes actuellement avec Marie Viennot, Sébastien Jean, directeur du Centre d'études de prospective et d'information internationale. Peut-être un petit mot sur cette, avant d'en venir à la situation plus précisément sur le commerce mondial. Un mot sur ce risque italien concernant par exemple l'euro. Est-ce que vous croyez qu'il est aujourd'hui fort, moyen, réel?
C'est une préoccupation très profonde et finalement assez lointaine qui est en train de se cristalliser en ce moment autour de cette question politique en Italie. Et il faut bien comprendre que l'Italie n'est ni la Grèce ni l'Espagne, c'est-à-dire il n'y a pas eu de dysfonctionnement, enfin de gabegie administrative dans le fonctionnement de l'État particulièrement. Il n'y a pas eu non plus cet afflux financier, cette hausse très forte de certains prix de l'immobilier en particulier comme en Espagne. En Italie, le problème profond, il est essentiellement qu'il n'y a plus de croissance depuis 20 ans, ce qui est vraiment structurel. Culturellement très préoccupant. Et l'Italie n'a toujours pas récupéré depuis la crise, enfin, n'a toujours pas récupéré son niveau de vie de 2007, et loin s'en faut. Donc, il y a vraiment ce problème structurel de savoir si on peut trouver un compromis dans le fonctionnement de la zone euro pour permettre de retrouver de la croissance économique en Italie, avec en parallèle, évidemment, la question de la solidarité sur les migrations, sur la crise migratoire qui est cruciale. Donc, c'est un problème très profond que pose cette crise italienne, je crois.
Selon le Wall Street Journal, donc Washington devrait annoncer aujourd'hui l'application des tarifs douaniers supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium. De telles décisions seraient dangereuses pour la croissance, elles seraient dangereuses pour la liberté du commerce, estimait ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a appelé Washington à la sagesse.
Bruno. Nous ne voulons pas de guerre commerciale. Le président de la République l'a redit hier avec la plus grande clarté à l'OCDE. Mais nos amis américains doivent savoir que s'ils prenaient des décisions agressives contre l'Europe, l'Europe ne resterait pas sans réaction. Et nous sommes déterminés, avec nos partenaires allemands, avec la commissaire au commerce Cecilia Malmström, à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à d'éventuelles décisions américaines sur les tarifs acier et aluminium.
Bruno Le Maire, donc, c'était à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue américain, le secrétaire au commerce Wilbur Ross. Sébastien Jean, donc, retour vers vous sur cette question évidemment tout à fait essentielle pour l'économie mondiale, de savoir où est le curseur entre libre-échange et protectionnisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que nous entrons dans une spirale protectionniste ?
La question se pose... Au-delà du dossier immédiat et de ce qui va se passer sur ces questions d'acier et d'aluminium en particulier, de savoir quels vont être les enchaînements et quelles vont être les escalades potentielles. Parce que ce que sont en train de faire les États-Unis au travers de ces mesures, c'est, il me semble, de violer de manière flagrante leurs engagements, c'est-à-dire qu'ils invoquent un motif de sécurité nationale qui paraît assez ridicule, hein, pour tout dire, dans le cas présent, tout à fait inadapté, et même le département de la défense aux États-Unis l'a reconnu d'ailleurs, pour mettre en place des protections qui sont des violations des engagements qu'ils avaient pris dans les traités internationaux. Donc là-dessus, pour l'Europe, on est évidemment dans une situation très inconfortable. C'est-à-dire qu'on a, on pourrait être tenté de laisser faire en se disant on veut pas qu'il y ait d'escalade. Hein, mais si on laisse faire sur l'acier, il faut s'attendre à ce que les États-Unis dans quelques mois fassent la même chose sur l'automobile, et ils ont déjà amorcé cette prochaine
part. Il y aura donc des ripostes européennes aussi, c'est ça l'engrenage possible.
Il y aura donc une riposte européenne qui est présentée et qui, sur le fond d'ailleurs, est une mesure de rééquilibrage. Et c'est important que, du point de vue européen, cette réponse se fasse dans l'esprit des engagements internationaux, parce qu'au fond, la priorité pour l'Europe, ça doit être de défendre un système commercial basé sur des règles au niveau multilatéral.
Question de Marie Viennot qui est à vos côtés.
Oui, alors Wilbur Ross, le secrétaire au commerce américain, a été hier au forum de l'OCDE. Il a conclu son intervention en disant qu'il fallait cesser de discuter et plutôt agir. Est-ce que vous pensez que l'invitation d'Emmanuel Macron à refonder l'OMC avec les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Europe, est-ce que ça peut rencontrer un écho positif dans l'administration américaine ?
Alors, on est dans une situation d'incertitude maximale. Hein. L'administration américaine, bon, d'une part, on a l'impression que toutes les décisions sont prises par un seul homme. Et donc, on est en attente du dernier tweet du président. Donc, évidemment, ça donne assez peu de visibilité de l'avenir et de ce que peuvent être les solutions de sortie. Et donc, encore aujourd'hui, finalement, on est à guetter le prochain tweet de Trump pour savoir ce qu'il a décidé sur l'acier et l'aluminium. Maintenant, je crois qu'il y a une sagesse dans les propositions formulées par Emmanuel Macron dans l'attitude de l'Union européenne, qui est au fond de dire il faut essayer de ménager une sortie par le haut de cette crise. On ne sait pas exactement si on va arriver à inciter les Américains à y aller. Pas tout de suite, probablement. Il ne faut pas être trop naïf. Mais on a, d'une part, disons, on essaie de manier, disons, des menaces, enfin, de montrer qu'il y aura des représailles si effectivement ils mettent en œuvre leur protection commerciale de façon injustifiée. Et d'autre part, on essaie quand même de proposer une solution positive. Et elle se base notamment sur l'idée qu'on a des problèmes à traiter ensemble, et c'est notamment de quelle façon est-ce qu'on peut rétablir une concurrence loyale, non faussée, avec la Chine, étant donné toutes les spécificités de l'économie chinoise.
Et alors, quand on a fait rentrer la Chine dans l'OMC, c'était en 2003, je pense, 2001, on savait donc qu'il y avait quand même cette potentielle concurrence déloyale. Pourtant, on l'a fait. Dire 15 ans plus tard, mais alors on n'y arrive pas finalement, autant imposer des taxes, est-ce que c'est pas finalement censé aussi ?
Je pense que quand on a un système d'engagement contraignant tel que celui qu'on a sur le commerce international, il ne peut pas être valide ad vitam aeternam s'il n'est pas révisé, mis à jour de temps en temps. Hein. Dans nos lois, en permanence, il y a un processus de rediscussion et un processus législatif pour les mettre à jour. Le problème qu'on a dans le système commercial multilatéral, c'est qu'on a établi ce système. Effectivement, il est contraignant. Il y a un organe pseudo-judiciaire de règlement des différends qui les fait appliquer, mais dans le même temps, il y a un échec de la fonction de négociation qui, au fond, est la fonction législative de l'OMC. Donc, ces lois ne sont pas mises à jour. Or, effectivement, vous avez raison de souligner que pour la Chine, les engagements qu'on a pris au moment, donc à la fin des années 90, au moment de la négociation des conditions de l'entrée de la Chine, elles étaient fondées quand même pour une bonne part sur l'idée qu'il y allait avoir une trajectoire de la Chine qui serait un peu une convergence vers un modèle, au moins partiellement. Depuis, la Chine a beaucoup changé, hein, elle a beaucoup changé notamment au début des années 2000 dans son organisation, mais elle ne converge pas, elle ne converge plus vers le modèle des économies occidentales. Donc, il faut faire avec, il n'y a pas de raison d'ailleurs de lui demander forcément de converger parce qu'elle a son propre modèle, mais pour le coup, la question se pose de façon aiguë de mettre à jour, d'adapter les règles.
Alors hier, Emmanuel Macron a évoqué l'agenda de l'Union européenne qui veut agir pour un commerce plus inclusif, c'est-à-dire qui se ferait au bénéfice de tous. Est-ce que vous pensez réellement que c'est faisable, qu'on peut intégrer des clauses sociales ou des normes sociales dans les accords commerciaux ?
C'est un véritable défi qui prend à rebours, disons, souvent un peu ce qui a été souvent la mantra des économistes, de dire pour un objectif, un outil. Et donc finalement, l'outil du commerce, il servait à remplir un objectif d'enrichissement, de croissance. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est obligé d'avoir une vision beaucoup plus large des conséquences des accords commerciaux, pour une raison de cohérence, hein, par exemple avec nos engagements sur le développement durable ou sur le climat. mais également parce que le commerce a un rôle très particulier, c'est-à-dire que c'est le domaine dans lequel il y a vraiment des engagements en face desquels on peut mettre des outils de quasi-coercition, disons, hein, justement cet instrument quasi-judiciaire. Donc il y a une nécessité aussi d'utiliser ça en cohérence pour les objectifs, de reconnaître également que on a probablement sous-estimé les impacts sociaux et environnementaux du commerce, qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux cette dimension-là. Donc c'est un défi, mais il y a un large accord, je crois, pour en tout cas en Europe, hein, pas forcément aux États-Unis justement, pour dire qu'il faut le prendre à bras le corps.
Merci beaucoup Sébastien Jean d'avoir accepté donc d'être en ligne avec vous. Merci aussi Marie Viennot donc pour cette interview. Vous êtes directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Encore un mot de la météo, puisque le territoire français a été frappé par plus de 155 000 impacts de foudre depuis le début du mois, du jamais vu depuis le début, au moins depuis le début de ce siècle. Cet épisode électrique est digne d'un mois d'août. Les alertes oranges, en tout cas, ont été levées aujourd'hui. Les averses orageuses vont quand même se multiplier avec un risque localisé de grêle. La Bretagne, les Pays de la Loire devraient rester à l'écart, ainsi que le sud de l'Aquitaine et de midi Pyrénées, des températures qui iront de 18 à 26 degrés. Et d'ici réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h avec Camille Magnard.